Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Poulain Raffut. Je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro un petit peu spécial en vue de France-Géorgie. Et bien sûr, je vais présenter avec notre excellent Arnaud Beurdelet. Salut Arnaud.
Salut Raph, bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci encore de m'accueillir pour cette belle émission Poulain Raffut. Vous le savez, c'est le podcast qui raffute le rugby en long, en large et en travers. Celui que vous pouvez retrouver, que vous pouvez écouter dans votre salle de bain, sur votre vélo, dans votre voiture, dans le métro, en Géorgie peut-être, d'où vient notre invité aujourd'hui. Je vous rappelle que ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, de Deezer à Spotify, en passant par Acast ou Apple Podcast. N'hésitez donc pas à vous abonner et à filer 5 étoiles à notre ami Raph Poulain. De cette façon, vous recevrez chaque semaine les derniers épisodes directement sur votre smartphone. Raph, je te laisse nous présenter notre invité du jour qui nous vient de loin. Il est loin en ce moment parce qu'il est en vacances. D'ailleurs, on le remercie au passage. Il a accepté quand même de venir discuter avec nous.
Oui Arnaud, quand on dit que le rugby commence devant, on n'imagine pas le boulot de l'ombre souvent ingrat des deuxièmes lignes qui poussent en mêlée, qui sautent en touche, qui plaquent à tour de bras. On n'imagine pas la tension et la concentration nécessaires pour un talonneur qui lance avec souvent un public hostile qui meugle derrière la barrière pour déstabiliser le lancer. Celui-là même qui doit talonner un ballon sur une jambe avec la pression exercée par 800 kilos adverses. On imagine encore moins le boulot des deux piliers qui symboliquement vont à la mine à chaque entrée en mêlée. Il y a ceux qui déstabilisent par la parole, il y a ceux qui stratégiquement peuvent jouer avec la règle, te foutant les côtes en travers et les cervicales en lambeaux. La plupart du temps, ce sont des taiseux, des besogneux, des silencieux, qui ne brillent pas comme ces artistes des feux follets des lignes arrières. Ça tombe bien, dans Poulain Raffut et à l'approche de France-Géorgie, nous avons trouvé un référent, un boucher, un géorgien, un dur au mal, en la personne de Vasile Kakovine. Passé par Brive, Toulon, puis le Racing, il est devenu en 10 ans une référence à son poste. De la trempe des Rodrigo Roncero, des Jean-Marc Rinka, des Jean-Baptiste Poux et autres Nicolas Mas, il entretient cette tradition des piliers géorgiens comme Zirakashvili ou encore Jvelidze. Des types venus de l'Est qui t'apportent une stabilité et une confiance dans les moments difficiles où, à la 78e, alors que des artistes des lignes arrières balancent une saucisse d'en avant à 2 mètres de ta ligne, c'est là qu'ils te portent encore une ultime poussée, une ultime estocade salvatrice mémorable qui passe trop souvent comme normale et qui te sauve un match. Ce sont des hommes à part, des types hors de la norme, des buffles, des taureaux, indispensables, voire vitaux. Vasile Kakovine, c'est 1m83 et 115 kg, c'est 22 sélections, c'est des centaines de mêlées poussées, des centaines de plaquages, des centaines de mecs de plus de 100 kg poussés à bout de bras en touche, et toujours ce calme qui rassure et qui honore un peuple dur au mal, besogneux et généreux à l'extrême. Merci, Vasile, d'être dans Poulain Raffut. Salut.
Bonjour, merci pour m'inviter. Ça fait vraiment plaisir de partager avec vous aujourd'hui.
Merci encore. Juste pour commencer, un petit rectificatif, parce que la langue de Raphaël a fourché. Après Brive, ce n'est pas à Toulon que Vasile a atterri, bien au stade toulousain où il a passé quelques belles années. Vasile, l'idée de ce podcast, on en a parlé avec Raph, évidemment qu'il y a France-Géorgie dimanche et on va en parler ensemble. Mais on a envie de te connaître davantage et avec toi de mieux connaître aussi ce qu'est aujourd'hui le rugby géorgien. Est-ce que déjà tu peux nous expliquer comment et pourquoi tu as démarré le rugby à une époque où le rugby en Géorgie n'était pas très développé comme aujourd'hui?
Voilà, moi j'ai commencé le rugby à l'âge de 14 ans parce que c'était mon frère, mon grand frère, il a commencé à jouer au rugby. Et du coup, j'ai regardé un match, deux matchs et ça me plaît. Ça, j'ai commencé un peu plus tard d'habitude, 14 ans. Et j'ai commencé à troisième ligne. Et j'ai joué deux ans à troisième ligne. Et après, petit à petit, j'ai décalé en pilier. Pilier gauche et pilier droit. Et en fait, comment je suis arrivé en France, j'étais en Géorgie et ancien joueur de, peut-être vous connaissez, Levent Sabadze, pilier droit de Castres. Ouais. Voilà. Ouais. Lui, il a joué avec les Hugo Mola à Castres et du coup, il m'a envoyé pour faire un test à Brive. Et j'ai passé 3 jours et après, Brive, il m'a proposé un contrat espoir et ça a démarré comme ça en France.
Mais avant de donner la parole à Raph, ce que j'aimerais savoir, c'est à l'époque où tu démarres le rugby en Géorgie, Vasile, les enfants ne jouent pas forcément au rugby. Enfin, j'imagine que le foot, tout ça,
non, voilà.
D'autres sports sont plus importants.
L'époque, comme tu l'as dit, l'année de 2000 jusqu'à 2010, le rugby, ce n'était pas un sport numéro un ni numéro deux. Et là, aujourd'hui, je peux dire facilement, et le rugby, c'est vraiment numéro un en Géorgie. Et du coup, là, il y a des marches progression énormes par rapport à l'année de 2000 et 2010.
Comment t'expliques ce caractère que vous dégagez? Enfin, vous dégagez un truc assez spécial, les Géorgiens, quand même. Il y a très peu de Géorgiens, d'ailleurs, qui jouent trois quarts, quand même, en France. Il y en a quand même pas mal qui jouent devant, troisième ligne, peu de seconde ligne, mais surtout des premières lignes. Vous êtes quand même une référence. Est-ce que c'est quoi? Est-ce que c'est... Je parlais de dur au mal dans le portrait. Comment tu qualifies justement cette suprématie, je dirais, justement, des joueurs géorgiens en première ligne? C'est quoi ce caractère? Est-ce que c'est de l'Est? Est-ce que c'est votre culture? Comment tu l'expliques?
En fait, déjà, quand tu arrives en France, tous les clubs, ils parlent les piliers géorgiens. Parce que nous, on va dire, on fabrique bien les piliers en Géorgie. Et nous, on aime les combats, on aime la mêlée et on aime toujours avancer sur mêlée. Et surtout, pour ça, peut-être, on est un peu bon par rapport à les trois quarts. C'est ça, les différences. Il n'y a pas un porte-clé. Je ne peux pas dire aujourd'hui, il y a un clé vraiment pourquoi on joue devant et on est bon devant. Et c'est les psychologiques aussi, un peu, ça joue.
La culture aussi, ouais.
Les cultures, ouais. Avant, il y a des enjeux en Géorgie, ils s'appellent l'élo ballon. Et c'est des années, en fait, les ballons, ils mettent milieu terrain et il y a des centièmes mecs, ils prennent ballon, ils l'amènent dans son village. Il y a des cultures un peu ça aussi en Géorgie.
Et là, tous les coups sont permis dans ce genre de pratique, Vasile, ou pas?
Non,
c'est très réglementé quand même.
Oui.
D'accord. On revient un peu sur tes premiers pas en France, Vasile. Donc, 2010, on l'a dit, tu débarques à Brive avec donc, l'entraîneur, c'est Hugo Mola. Et pour avoir discuté avec Hugo Mola, il m'a glissé qu'il avait toujours été impressionné par ta force, par ta faculté à apprendre, à t'intégrer également aussi, parce que ce n'est pas facile. La Géorgie et la France, même si on n'est pas si loin que ça, il y a des cultures qui sont différentes. Et il me disait qu'il était impressionné par cette force et cette tranquillité que tu dégageais. Avec toi, il me dit, avec Vasile, il n'y avait jamais de problème.
Voilà, comme je l'ai dit, je suis arrivé en 2010 en France. Et je cache pas, premières trois mois, c'était très, très dur. J'ai envie de rentrer directement en Géorgie parce que j'ai pas d'amis, je parle pas le français. C'était trop, trop compliqué, premières trois mois. Et après, petit à petit, c'était l'époque, David Kinchagishvili, pilier gauche, il a joué à Brive. Il m'a beaucoup aidé. Et du coup, j'ai commencé à jouer avec l'espoir, comme d'hab, j'étais 20 ans. Et après 3-4 mois, j'ai commencé à jouer avec l'équipe des pros, à traîner avec l'équipe des pros. Et comme tous les étés avant la reprise, il y a des matchs amicaux. J'ai commencé petit à petit avec matchs amicaux. Et là, du coup, il m'a donné les chances pour jouer avec les professionnels. Et là, j'ai commencé à jouer à top 14.
Et tu n'as plus jamais arrêté. Parce qu'il disait qu'il te faisait jouer tous les week-ends, qu'il t'avait épuisé. Et d'ailleurs, il expliquait que tes premières années à Toulouse, où tu as eu beaucoup de blessures, c'était aussi peut-être un peu à cause de lui, parce qu'à Brive, il te faisait jouer tous les matchs.
Ouais, c'est quand tu es jeune, tu ne calcules jamais. J'étais 20 ans, 21 ans, et j'ai joué presque tous les matchs. J'étais en forme, tu cours à droite, à gauche, tu ne fatigues jamais. Et là, au bout d'un moment, ton cœur, il dit peut-être il faut calmer. Et là, j'ai blessé à Toulouse. C'était deuxième année. J'ai blessé à Toulouse deuxième année.
Ouais, ça a été un moment difficile, je crois, pour toi.
Ouais, c'est très, très, très difficile. Du coup, j'ai passé 2 ans à Brive. Et après, j'ai signé à Toulouse 2012. Et j'ai passé 5 ans à Toulouse. Et deuxième année de Toulouse, je me suis blessé ligament croisé. C'était très long. Un joueur rugbyman ligament croisé, je ne souhaite personne parce que c'était très dur. Et j'ai arrêté presque 8 mois. Après, petit à petit, je reviens. Mais ça restait quand même une blessure difficile.
Raph, tu parles souvent, toi, justement de ce côté un peu difficile, du manque d'accompagnement avec les joueurs blessés. T'imagines combien ça peut être difficile quand tu es blessé, quand tu es français, que tu as ta famille autour de toi, mais qu'en plus, tu es géorgien, que tu es loin de ta famille, loin de tes proches. Est-ce que là, les instances n'ont pas aussi quelque chose, ou les clubs, en tout cas, à mieux appréhender pour accompagner justement les joueurs blessés qui viennent de loin.
Ouais, je pense qu'on a beaucoup parlé des Fidjiens aussi. Il y a eu des cas même extrêmes aussi des Fidjiens, parce qu'il y a le côté insulaire aussi, mais même pour les Géorgiens qui viennent de l'Est. Mais en fait, comme l'a dit aussi, comme tu viens de le dire, c'est très compliqué. J'ai déjà de l'intégration parce qu'il y a la barrière de la langue, ensuite il y a la culture, ensuite il y a même aussi la nourriture. Je pense que la nourriture, quand tu arrives en France aussi, quand tu es pilier, tu vois, ça aime bien clapper. Donc voilà, il faut s'adapter aussi à ça aussi. Et puis l'envie à 20 ans, quand tu arrives, de faire tes preuves, comme tu l'as fait justement à Brive, arriver à Toulouse, se blesser. Et comme tu le dis, les instances aujourd'hui doivent prendre en considération la psychologie aussi des joueurs. Mais comme tu viens de le dire aussi, c'est très compliqué. Tu as envie d'appartenir au groupe, ça, on le sait. Donc, 8 mois pour les croiser, c'est très compliqué. Mais en plus, il y a la barrière de la langue. Il y a la solitude aussi. Alors, je ne sais pas si tu étais marié ou si tu avais une femme à ce moment-là, mais ça aide aussi.
Si, ça tombait bien parce que c'est ma fille, elle est née l'année des GBLS.
Ah, ça. Mais même ça, tu vois, en fait, tu arrives, tu débutes. Donc, il faut faire gaffe à tout. Tu es professionnel. En plus, tu as un enfant qui arrive aussi, donc ça te met aussi une pression supplémentaire, parce que tu deviens père aussi. Enfin, il y a toute cette pression, plus la culture. Je pense que cet accompagnement, aujourd'hui, il est nécessaire. Je parle beaucoup d'accompagnement psychologique pour les sportifs pendant leur carrière et surtout pendant la blessure, parce que la notion de temps, elle est complètement élargie, parce que tu ne joues pas, parce que tu es seul à la muscu, parce que tu es seul avec les kinés. Il y a en plus la barrière de la langue pour Vasile, c'est compliqué. Donc, cette approche-là, elle est vitale aujourd'hui pour le sportif, pour qu'il se sente bien, pour qu'il ait un protocole de retour à la fois physique, mais aussi psychologique. Je pense que tu seras d'accord avec moi, Vasile, sur ces périodes-là.
Exactement.
Sont compliquées.
Voilà. C'est en plus, très, très compliqué.
Et puis en plus, voilà, vous êtes peu nombreux, même s'il y en a de plus en plus, il y a de plus en plus de Géorgiens, mais à quoi tu t'accroches? Tu vois, en général, les Fidjiens, ils vivent en famille, ils vivent entre joueurs, ils s'appellent, ils sont à 150 km les uns des autres, mais ils se voient. Pour les Géorgiens aussi, il y a peut-être aussi beaucoup de pudeur, donc on ne dit pas que ça ne va pas. Et j'imagine que pour vous, c'est encore pire qu'en France, c'est qu'on ne dit pas quand ça va mal. Donc, arriver à ouvrir une porte et arriver à pouvoir se confier, c'est très compliqué. Mais la responsabilité, bien sûr, qu'elle est au niveau des clubs.
Vasile, est-ce qu'il existe, comme Raph le souligne, une communauté géorgienne? Est-ce que vous vous côtoyez? Est-ce que vous vous voyez souvent les joueurs qui évoluent dans le top 14? Alors, quand vous jouez dans les mêmes clubs, oui, j'imagine que oui. Mais est-ce que, par exemple, il t'arrive de côtoyer des joueurs géorgiens qui évoluent à Clermont, à Toulouse, à Brive, à Toulon, je ne sais pas?
Après moi, ça, oui, ça arrive, mais c'est pas, comme il a dit, c'est pas souvent, parce que c'est pas facile quand tu habites à Paris, voyager à Toulon, et si tes vacances, il faut que tu profites avec ta famille. Mais bien sûr, on a très proche. Moi, j'ai beaucoup d'amis. Je suis très ami de Victor Rolle, je suis ancien joueur de Clermont. Lui, il vient souvent chez moi et moi, je vais souvent chez lui. Et bien sûr, on est très proche. On est très proche. Mais ça n'arrive pas souvent partager ensemble à France à certains moments.
Alors, il y a l'amitié d'un côté et on a discuté justement avec Mauricio Reggiardo la semaine dernière. En fait, beaucoup d'amis, Par contre, sur le terrain, la confrontation, est-ce que c'est un petit peu la même, ce jeu un petit peu psychologique entre les piliers? Parce que justement, tu rencontres et tu as rencontré justement, maintenant, il y a des jeunes aussi qui poussent au cul, mais il y a aussi les anciens. J'ai cité Zirakazvili. Quand tu jouais contre lui, comment ça se passait? Parce qu'il y a l'amitié, mais après, derrière, est-ce qu'il y a une confrontation et une envie? De toute façon, au-delà, les piliers, on sait très bien que vous voulez prendre le dessus sur l'autre. Mais avec cet adversaire qui peut être géorgien face à toi, comment ça se passe?
Moi, quand je vois feuille de match, juste avant les, par exemple, avant Clermont ou avant Toulon, s'il y a pilier géorgien, franchement, je déteste jouer contre un pilier géorgien. J'ai dit souvent à ma femme, j'aime pas jouer contre géorgien parce que c'est un truc très, très difficile. Il faut tout calculer rien, mais il est géorgien. Il soit tant bien. C'était peut-être ton pote. Peut-être vous rendez moi et Chilachava, Levan Chilachava, presque on est grandi ensemble. Mais on a croisé déjà 10, 15 fois face à face. Mais c'est.
Et ça s'est toujours bien passé ou pas avec Levan?
Ouais. Ouais. Ça dépend quel match. On a joué au moins 10 matchs. moitié.
Et est-ce que comme Sylvain Marconnet, qui était un spécialiste de parler dans la bouche des piliers adverses, je me souviens pilier et même deuxième ligne, pour l'anecdote, on va jouer contre Leicester et il courait à côté de Martin Johnston, il lui disait run Martin, et en mêlée il lui disait push Martin, il lui a fait péter un câble, carton jaune, on gagne contre Leicester. Est-ce que tu es de ce genre de pilier qui parle, alors en français maintenant qu'il n'y a plus la barrière de la langue, est-ce que tu parles un peu dans la bouche des pilards? Ou est-ce que tu es plutôt justement le taiseux qui fait le boulot? Moi, ce qui m'impressionne chez toi, je te jure, hein, c'est qu'à chaque fois que tu redresses une mêlée et à chaque fois que tu gagnes une mêlée, tu te redresses, mais tu as un truc, tu as un flegme, mais tu as le flegme, c'est juste, tu as un truc, tu laisses rien transparaître, tu as une forme de fierté qui transpire, mais c'est fort quand même, je te jure, tu as un truc que tu dégages, je suis assez admiratif de ça, parce que je le disais dans le portrait, le métier de pilier, c'est un métier à part. Donc, comment t'es, toi? Tu parles pas? Tu parles dans la bouche ou non? Tu fais le taf?
Moi, je parle pas trop, non. Je peux pas parler dans la bouche, même si j'ai gagné au mêlée. Parce que la mêlée, peut-être, c'est un métier plus dur dans la rugby. Parce que peut-être, tu peux dominer à première 20 minutes, mais tu reprends sur les dernières 60 minutes. Il faut toujours respecter les adversaires, les jeunes, les vieux. L'expérience, il faut toujours tout respecter. Moi, je rappelle, il y a plusieurs piliers que j'ai croisés. Peut-être j'ai un peu mieux respecté et j'ai du mal à gagner la mêlée. Il faut respecter n'importe pilier gauche, n'importe pilier droit et n'importe quel pack à top 14 surtout.
Pourquoi ce rôle, il est si important? Comment tu peux nous expliquer que c'est un rôle à part? Il y a le talonneur, tous les rôles sont à part, bien entendu, mais moi, je parlerai plus des trois quarts parce qu'on est des artistes, tu vois, mais en fait, on est des... Enfin, sans vous, on n'est rien, c'est clair. Donc, c'est pourquoi le métier de pilier est si particulier? Parce qu'on ne sait pas ce qui se passe dans la mêlée. Ça pousse parfois en travers. Enfin, il y a des trucs qu'on ne voit pas, qu'on ne sait pas, quoi. C'est la première fois qu'on peut parler un pilier. On en a parlé avec Mauricio la semaine dernière, mais on n'est pas rentré dans le vif du sujet, du détail de la mêlée. Alors, il y a peut-être qu'il y a un secret autour de tout ça, mais tu peux nous en dire un peu?
Non, en fait, il n'y a pas un secret, hein. Déjà, c'est le rugby, c'est un sport collectif. Et on n'est pas que pilier devant. Si ton deuxième ligne ne pousse pas et ton troisième ligne ne pousse pas, tu ne peux jamais gagner ton mêlée. Si ton talonneur ne sert pas comme il faut ou il ne bloque pas pilier droit, tu ne peux jamais avancer mêlée. Et c'est ça. Nous, on est devant. C'est nous, on domine. Mais derrière... Il y a deuxième et troisième ligne, ils poussent comme des uns. Sinon, tu ne peux pas gagner cette mêlée. Après, il y a certaines équipes à top 14, ils gèrent un peu. Mais depuis que je suis en France, j'ai passé Brive, Toulouse, Racing et Stade français. Stade français, ils ne calculent jamais une mêlée. Ils poussent n'importe quelle mêlée dans leur camp, adverse, dans la 22. Ils sont toujours 100% les mecs derrière. Du coup, tu es 100% pour toutes les mêlées.
D'ailleurs, paradoxalement, malgré le classement du Stade français qui n'est pas très brillant en ce moment, le Stade français a l'une des toutes meilleures mêlées du top 14 au niveau statistique. Basile, on va parler un petit peu du développement du rugby géorgien. Un rugby géorgien qui, depuis 2003, est à chaque fois qualifié hein, pour la Coupe du Monde, qui gagne régulièrement le tournoi Destination B, tournoi qui, je le rappelle, réunit la Géorgie, la Roumanie, la Russie, le Portugal, l'Espagne et la Belgique ou les Pays-Bas selon les années. Basile, c'est une question qui est fondamentale pour le développement du rugby géorgien, mais est-ce que la Géorgie, pour progresser, ne doit pas tôt ou tard intégrer une grande compétition comme le tournoi Destination? On sait qu'on en parle régulièrement, ça revient souvent sur le tapis. Est-ce qu'on doit instaurer un match de barrage, par exemple, entre le dernier du tournoi Destination, qui souvent est l'Italie, et le vainqueur du tournoi B?
Oui, comme tu l'as dit, depuis 2003, on est toujours qualifié Coupe du Monde. Première Coupe du Monde, c'était 2003. C'était bien sûr, c'était compliqué. On n'a pas gagné un match. On a perdu tous les matchs. Après, à partir de 2003 jusqu'à 2007, à France, on a fait très belle Coupe du Monde. On a fait très belle Coupe du Monde. On a joué très, très bel match contre l'Irlande. On n'est pas loin de gagner. Et on a gagné contre Namibie avec un bonus. Et après, chaque année, c'était progressé. 2011 jusqu'à 2019, c'était un peu compliqué, Coupe du Monde. Mais il y a des marges de progression parce que développant des rugby géorgien, aujourd'hui, il y a plein centres formation, ça commence et il y a beaucoup de stades à construire et il y a trois ou quatre comme Marcus, il y a des jeunes,
des centres de performance,
voilà, il y a des jeunes, ça commence déjà, si t'es 14 ans tu vas là-bas et tu joues avec tout ce qui est tout ce qui est ton âge. Après arriver à un certain âge, toujours moins 19, moins 20, et ça progresse énormément.
Donc du coup, est-ce que toi tu serais favorable au fait qu'on instaure ce match de barrage pour que la Géorgie ait sa chance pour éventuellement, on dit que pour progresser il faut jouer les meilleures nations, est-ce que toi
oui,
tu serais favorable?
Ça c'est sûr et certain, mais là on a vu c'était 8 nations quand on a fait il y a 2 ans, c'est ça, l'année dernière, il y a 2 ans. Là, on n'était pas été bon, on ne cache pas, on n'était pas été bon. Moi, je pense aujourd'hui, peut-être on n'est pas prêt pour jouer 6 nations, mais comme tu l'as dit, peut-être il faut jouer un barrage contre les dernières pour voir on est quel état aujourd'hui. Et il y a 3 ans, on a joué contre Italie à Italie et on a perdu. Mais il faut jouer en gros pour gagner expérience, gagner maximum d'expérience.
Alors, je sais que Raph, c'est un sujet qui l'intéresse, mais est-ce que tu as le sentiment qu'un pays comme la Géorgie, qui est en plein développement hein, au niveau du rugby, est-ce que tu as le sentiment que votre pays n'est pas beaucoup aidé par World Rugby, par exemple? On a le sentiment que World Rugby fait beaucoup pour les nations du tiers 1 et finalement assez peu pour les nations du tiers 2, et je ne parle même pas du tiers 3.
Si, on a énormément progressé. Hein. Moi, quand j'ai commencé le rugby, c'était les stades, ça existait stade de foot, hein, ça n'existait pas stade de rugby. Là, aujourd'hui, il y a à Tbilissi, par exemple, capitale, au moins, il y a des 10 stades et le rugby. Et, dernière fois, on a fait les Coupes du Monde de moins 20 en Géorgie. C'était très bien passé. Et non, il y a des marches progression énormes hein, par rapport à l'année d'avant.
Est-ce que le rugby aujourd'hui en Géorgie, comment il se situe? Est-ce qu'il est professionnel, semi-professionnel? Il y a beaucoup de joueurs, on l'a dit, qui viennent en France, mais est-ce qu'il y a une structure qui est mise en place pour pouvoir au moins rémunérer les joueurs qui jouent Il y a un championnat aussi en Géorgie. Tu peux nous expliquer un peu ce qui se développe là-bas et comment les mecs sont rémunérés? Parce que c'est vrai que l'Eldorado, ce serait la France, l'Angleterre, en tout cas les pays du tiers 1. Mais quelles sont les structures, au-delà des structures techniques, est-ce qu'il y a une structure qui est mise en place avec un championnat et une possibilité d'être rémunéré là-bas?
Oui, en fait, en Géorgie, il y a 10 équipes. Je ne peux pas dire que c'est professionnel, c'est pas professionnel, c'est semi-professionnel. Mais les joueurs là-bas, tu ne peux pas travailler. soit tu entraînes toujours au rugby, soit tu joues pas et tu travailles. En fait, peut-être, ça dépend quelle semaine, mais peut-être tu peux entraîner deux fois par jour. Hein. C'est un métier comme on est en France. C'est vraiment, tu entraînes matin et après-midi.
Mais et financièrement, c'est peut-être plus difficile. Les salaires sont pas ce qu'il y a en France.
Voilà, c'est ça. Comme j'ai dit, c'est semi-pro. Moi, je dis, c'est comme c'est fédéral une, les niveaux. Mais le financement, par rapport à fédéral une, il est beaucoup moins, même...
moins important.
Est-ce qu'à la fin de ta carrière, est-ce que tu t'imagines repartir là-bas pour apporter justement toute ton expérience que tu auras joué, enfin, on te souhaite de jouer encore longtemps, hein, tu as 30 ans aujourd'hui.
32 bientôt, 32 décembre.
Merci. Donc, voilà, la maturité, tu l'as aujourd'hui, arrivé à 33, 34 ans, voire 35 ans, mais c'est vrai que le monde du... Enfin, le pilier, en tout cas, dure un peu moins longtemps que les trois quarts. Bon, moi, j'ai arrêté à 25, je suis un contre-exemple. Hein, mais voilà, est-ce que tu te vois, toi, après carrière, repartir en Géorgie ou faire des allers-retours, parce qu'on imagine que ta famille sera en France, de repartir en Géorgie pour aider le rugby géorgien? Est-ce que c'est quelque chose qui te botterait?
Je ne peux pas dire aujourd'hui, mais pourquoi pas? Parce que moi, je focus déjà dans ma carrière, comme c'était pas fini encore. J'ai envie de jouer encore 3-4 ans. On verra bien. Après, oui, ça c'est sûr et certain, je rentre en Géorgie. Moi, je ne reste pas en France parce que je préfère rentrer dans mon pays.
Bien sûr.
Ouais. Et après, pour développer les Géorgies, oui, pourquoi pas. Je vais remporter quelque chose pour l'équipe de Géorgie.
On parle un petit peu de ta carrière internationale rapidement avant de venir au match de dimanche. Vasile, 22 sélections, Raphaël l'a dit, avec peut-être cet apogée, la Coupe du Monde 2011 en Nouvelle-Zélande, à laquelle tu as pris part. Jouer une Coupe du Monde en Nouvelle-Zélande, j'imagine qu'il y a quelque chose de magique. Quel souvenir tu conserves de ce moment-là?
C'était 2011, j'étais 20 ans et j'étais à Brive et de... j'ai fait un bon début de saison à Brive. Du coup, l'équipe de Géorgie, c'était entraîneur de l'équipe de Géorgie, c'était Richie Dixon, c'est un ancien joueur écossais. Et on est parti en groupe. Pour moi, c'était un vrai surprise parce que j'étais 20 ans, pilier gauche, 20 ans, jouer avec l'équipe de Géorgie Coupe du Monde. J'imagine même pas. Et quand on était arrivé à New Zealand, à New Zealand, c'est franchement, c'est un truc d'extraordinaire. Il y a culture de rugby là-bas. Moi, quand j'étais arrivé, j'étais 20 ans. Quand j'ai vu cette culture des New Zélandais, j'ai dit waouh, je suis où? Et c'était extraordinaire l'année de 2011.
Quel souvenir, parce que je crois que tu participes à deux rencontres sur cette Coupe du Monde.
Oui, exactement. J'ai joué contre Roumanie et contre Argentine.
Tu regardes quel souvenir de ces rencontres quand on a 20, 21 ans, qu'on démarre avec son pays comme ça, parce qu'il y a une fierté, une forte appartenance aussi quand même des joueurs géorgiens, un peu comme les Argentins. Il y a un sentiment que voilà, quand vous jouez pour votre pays, quand vous portez le maillot des Lelos, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous transcende en plus. Hein.
Bien sûr, là, quand tu portes les maillots Géorgie, il faut que tu remportes le maximum possible. Hein. Il faut être présent tout ce qui est combat, tout ce qui est mêlé. Et là, j'étais 20 ans, je ne cache pas, premières 10 minutes, c'était un peu difficile. Hein. Je ne voyais rien devant, c'était très difficile. Mais après, petit à petit, j'étais dans le match. Et bien sûr, on a perdu contre l'Argentine, mais première mi-temps, on a gagné. J'étais très content, même première mi-temps, on a gagné.
C'est un petit pas vers la progression. Raph, on va parler un petit peu du match de dimanche. D'abord, juste une précision, Vasile. Tu l'as dit, 31 ans, bientôt 32. Est-ce que tu aurais aimé pouvoir jouer ce match dimanche contre l'équipe de France, toi qui es là depuis maintenant plus de 10 ans en France, tu connais, j'imagine, très bien les joueurs français. Pouvoir jouer cette rencontre, j'imagine que ça aurait été un vrai plaisir, non?
Et oui, ça fait déjà, quand ça fait 10 ans ou 12 ans que je joue en France et je n'ai jamais joué contre France. Bien sûr, j'ai envie de jouer, mais ce n'est pas moi qui décide, mais j'ai arrêté après les 2015 pour l'équipe nationale, c'est ma décision.
Tu peux nous expliquer pourquoi, Basile? Parce que je crois que tu n'es pas retenu hein, pour la Coupe du Monde 2015.
Oui, exactement. L'année de 2013, quand je me suis blessé à ligament croisé, depuis 2013 jusqu'à 2015, je n'ai pas joué avec l'équipe de Géorgie. Et j'ai là fait les préparations. Et comme je n'ai pas trop joué avec l'équipe de Géorgie, au final, ils n'ont pas pris. Et là, je l'ai dit, il faut que je reste au club. Il faut que je reste à Toulouse. Et depuis ça, je n'ai pas joué.
D'accord.
C'était une décision par rapport à Toulouse, le fait d'avoir été blessé, tu te sentais peut-être un peu redevable par rapport à Toulouse ou aussi le fait de ne pas avoir...
Non, c'est vraiment ma décision. C'est ma décision.
D'accord. Et là, aujourd'hui, à 31 ans, bien sûr, 32, est-ce qu'il n'y a pas... Je ne vais pas parler de regret, mais il n'y aurait pas une envie. Tu arrives à maturité. Enfin, je veux dire, comme je le disais, tu es l'un... T'es une référence en France au poste de pilier. La Géorgie est en train de... Voilà, d'avancer aussi. Est-ce qu'il n'y aurait pas une envie, en fait, de revenir un peu sur ta décision et dire, allez.
Là, je suis bientôt 32 ans. C'est trop tard. Et il faut que je focus dans mon club Stade français. Et j'ai supporté l'équipe des Géorgie.
Alors justement, on va en parler de ce match, Vasile. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu? Parce que j'imagine que tu connais quand même beaucoup des joueurs qui vont affronter le 15 de France dimanche à 14h, on le rappelle, à Bordeaux. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du niveau de cette équipe? Qu'est-ce qu'elle vaut aujourd'hui, cette équipe de Géorgie?
L'équipe de Géorgie, c'est une équipe, on n'a pas de pays, hein, on n'a pas... On est que 4 millions d'habitants. Mais cette équipe de Géorgie, c'est une bonne jeune génération. Surtout, moi, je suis sûr, je ne peux pas parler favori par favori parce qu'on essaie les favoris. Mais moi, je suis sûr et certain, les joueurs des Géorgiens, ils ne lâchent rien jusqu'à la première et 80e. Ça, c'est sûr et certain. Surtout contre les Français.
Pourquoi surtout contre la France?
Parce que ça, si tu regardes l'équipe de Géorgie, presque plus de moitié équipe, ils jouent soit top 14, soit pro des dons. Et nous, on veut vraiment montrer notre visage. Ça fait 14 ans qu'on n'a pas joué. Dernière présentation, c'était 2007. On a pris 65 points. Et du coup, on voulait montrer qu'on n'est pas au même niveau que 2007.
Ah, c'était lors de la Coupe du Monde en France, hein, la dernière Exactement. Confrontation entre les deux équipes. Est-ce que c'est aussi une opportunité? Je crois que c'est Merad Charikadze. D'ailleurs, Vasile, un grand merci, parce qu'on a invité le seul Géorgien français pour lequel j'arrive à prononcer le nom facilement, parce que sinon, on n'y arrive pas. Hein. Donc, un grand merci, Vasile.
Ouais.
Donc, le capitaine de la Géorgie qui disait que ce sera un match spécial, cet affrontement signifie beaucoup pour nous, c'est un bon test et une opportunité de se jauger face aux Français qui sont très bons. On espère qu'on parviendra un jour à devenir une nation du tiers 1. Est-ce que ça passe par ce genre de rendez-vous, Vasile?
Bien sûr. Il faut, comme on a dit, hein, il faut jouer en gros pour gagner expérience, pour... voir, goûter qu'est-ce qui c'est vrai rugby, qu'est-ce qui c'est vrai niveau. Et là, aujourd'hui, l'équipe de France, pour moi, si tu suis dernier deux ans, c'était une des meilleures équipes, au moins trois dans le monde. Et là, c'est un match vraiment attraper l'expérience pour les Géorgiens. C'est un match, il faut tout prendre, il faut tout prendre.
Ah, et en termes d'expérience, tu sais de quoi tu parles. Parce qu'à mon avis, à 20 ans, tu as beaucoup plus appris avec des mecs de 30 ans face à toi qu'avec des mecs, des mecs de 20 ans, 21, 22 ans qui jouent en face de toi. Donc, l'expérience de jouer face à des gros, de jouer face à des grosses nations, justement, t'apprends justement à plus évoluer que de rester dans le tiers 2 aussi Et puis voilà, un espèce d'entre-soi où tu ne te sens pas non plus évoluer parce que tu vois ta marge de progression face à l'équipe de France. Mais je pense qu'il y a peut-être. Est-ce que, alors, je te pose la question, est-ce qu'il n'y a pas une surprise qui peut être créée par la Géorgie? Alors, ça peut paraître utopie, enfin, fantasme, mais est-ce qu'il n'y a pas un peu de rêve aussi de pouvoir accrocher? Tu l'as dit, toi, ta Coupe du Monde, ta réussite, c'est cette première mi-temps face à l'Argentine, vous l'avez gagnée. Et déjà, de tenir la baraque sur 40 minutes face à l'équipe de France avec cette grosse mêlée que vous avez, déjà en conquête, est-ce que ce ne serait pas déjà un truc, voilà, une réussite déjà en soi pour la Géorgie?
Ouais, comme on a dit, ça va être pour l'équipe de Géorgie, ça va être très très dur les matchs. Mais comme je l'ai dit, les équipes de Géorgie lâchent rien, c'est sûr et certain. Parce que déjà, quand tu joues contre France, comme je l'ai expliqué, ça fait 14 ans qu'on n'a pas croisé. On a croisé pas mal des nations. Hein. L'année dernière, on a joué contre Irlande. On joue souvent contre Écosse, mais on n'a jamais joué contre France. Et comme tu l'as dit, surprise, je ne sais pas, mais je ne peux pas prononcer avant. C'est très difficile pour moi.
Mais tu en rêves quand même.
Oui, c'est un rêve, mais si on gagne première mi-temps, moi, je suis
tu fais content. La fête. Tu fais la fête. Et t'appelles Gonzalo Quesada en disant « je ne suis pas là lundi matin à l'entraînement parce que j'ai fait la fête » ou pas? Basile, merci beaucoup en tout cas de nous avoir un petit peu éclairé sur ce qu'est aujourd'hui le rugby géorgien. Merci de nous avoir apporté quelques éléments avant cette rencontre de dimanche. Dernier mot, tu seras où dimanche à 14h, Basile?
Je suis à Bordeaux.
Pour supporter l'équipe géorgienne, j'imagine?
Oui, oui.
Bon, tu ne seras pas avec à encourager Sekou Makalou si toutefois il est sur la pelouse, du coup.
Désolé, mais non.
Moi, j'ai juste deux dernières questions pour toi, Basile. Tu sais que j'ai joué donc, au Stade français. Il y a cette culture aussi des piliers avec les Marconnet, les Devilliers. J'ai cité Ron Serro. Est-ce que cette culture, elle se transmet? Je pense qu'avec Thomas Lombard, il y a cette volonté. Comment toi, tu te sens à Paris? Parce que c'est quand même une ville particulière pour le rugby. Bon, tu as vécu à Toulouse aussi. En fait, tu as fait crescendo. Tu as fait Brive, tu as fait Toulouse. Tu t'es rapproché de Paris avec le Racing. Maintenant, tu es dans Paris. Parce que le club de la capitale, c'est le Stade français, ça je le défendrai toujours. Comment tu t'y sens, toi, là-bas? Comment tu te sens avec une saison qui est un petit peu particulière, quand même?
Les Stades français. Franchement, quand tu ne sais pas les Stades français, quand tu vois l'UN, tu n'imagines pas qu'est-ce qui se passe vestiaire. Franchement, c'est un club extraordinaire. Parce que moi, j'ai arrivé l'année de Covid. C'est Laurent Sambéré, il m'a appelé, il m'a dit « Kako, j'ai besoin de toi ». Et depuis, j'ai vu à Stade français, je ne rappelle pas, même un seul match, j'ai vraiment dégoûté. Parce que c'était vraiment… Même si on perd les matchs, on essaie, on peut capable plus, on revient plus fort la semaine prochaine. Et les cultures les amants, comme je l'ai dit, hein, Stade français, ils poussent 5 mètres jusqu'à dans leurs 5 mètres. La mêlée, c'est une culture. J'ai jamais vu une culture comme ça. Stade français, il aime la mêlée comme on aime les Georgiens la mêlée. C'est un point vraiment objectif dans le match.
C'est très important. Et moi, ma dernière question. Est-ce que tu as des amis trois quarts? Parce qu'on sait devant, en général, on a les avants qui bouffent ensemble et les trois quarts qui bouffent ensemble. Bon, tu avais juste Dominici qui venait bouffer avec les avants. Je ne savais pas ce qu'il foutait là, mais il te venait de parler dans la bouche. Est-ce que tu as des amis trois quarts, que ce soit à Brive, à Toulouse, au Racing, même au Stade français?
Oui, j'ai beaucoup d'amis en France. Ça fait 10 ans que je joue en France. Bien sûr, j'ai des amis. Mais
est-ce qu'il joue derrière? Est-ce qu'il joue derrière?
Oui, mais.
Tu nous cites pas Sekou Makalou. Tu nous cites pas Sekou Makalou parce qu'il joue devant et il peut jouer derrière aussi. T'as pas le droit. Donc
là, peut-être qu'il va jouer à l'ailier, non?
Ouais. Bon, donc, en tout cas, un grand, grand, grand merci, Basile. On va pas te retenir plus longtemps parce qu'on sait que tu es en vacances. Tu es en famille en vacances. Donc, un grand merci. Basile, d'avoir accepté notre invitation. Raph, on se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure. Poulain Rafut, c'est terminé pour cette semaine. Rendez-vous donc la semaine prochaine. À très vite sur Eurosport et Rugbyrama.
Vasile, merci beaucoup. Arnaud, merci beaucoup. Et ouais, à la semaine prochaine. Bonnes vacances à toi. Bon match ce week-end. Vive la Géorgie. Pour nous, vive la France. Et à la semaine prochaine, encore une belle surprise avec un bel invité. Merci beaucoup, Vasile. C'était très sympa.
Merci beaucoup. Un bon match. Au moins, première mi-temps pour Géorgie.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker, Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author, Elizabeth Gilbert, about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.